Yvonne nous a parlé dans la première partie du récit de la Pentecôte et de la question des... Dans le texte, il est écrit les autres langues, les langues étrangères. Elle en a bien parlé, n'est-ce pas? Elle qui est, allez, je parle de ma femme, pour changer, une maîtrise en traduction interprétariat, quand même. Anglais, allemand, français, les langues étrangères, elle connaît. Elle parle même le flamand. Alors le flamand, c'est du néerlandais avec l'accent du sud. Mais pas l'accent marseillais. L'accent du sud des provinces du nord, comme on disait au XVIIe siècle. C'est pas le Algemeen Beschaaf Nederlands, hein. Hein, ben voilà. Alors j'aimerais revenir à ce récit en parlant du début et de la fin du paragraphe. Et ce faisant, parler un petit peu, devinez quoi, du Saint-Esprit dans la vie. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, et nous, et nous, et nous. Pour paraphraser la chanson de Jacques Dutronc, hein, 800 millions de Chinois et moi, et moi, et moi, la Pentecôte, et nous, et nous, et nous. Hier, samedi, mon ordinateur signalait en haut à droite, sur l'écran, demain, Pentecôte. Hein, je vous disais, Google quand même, pas mal, hein. Pentecôte, Pentecosté, 50e, 7 semaines, 7 fois 7, 49. Disons 50. Penta, en grec, 50. Le 50e jour, Pentecôte, une fête après Pâques, 7 semaines après Pâques, qui fête la moisson, qui fête aussi l'alliance au Sinaï, la Pentecôte. Et le premier verset du récit, je ne l'ai pas noté, mais nous présente les disciples dans une maison. Et écoutez bien, ils étaient tous ensemble rassemblés à un même endroit. Alors, on revient du synode et là, il y a le professeur, le doyen, qui est professeur du Nouveau Testament de la faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine, où j'y étais, où Pierre Lacoste était, où Emmanuel Alvarez était, Jeff Combat était, une bonne école, mais qui nous a vraiment entretenus sur ce livre des actes et qui faisait remarquer, avec une certaine malice, qu'on peut difficilement être rassemblés tous ensemble dans des endroits différents. Alors quand Luc nous dit « ils étaient tous ensemble rassemblés au même endroit », c'est un petit peu redondant, vous êtes d'accord avec moi ? Difficile d'être rassemblé à différents endroits. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de visioconférence. On peut être rassemblé aujourd'hui en différents endroits, mais avec la visioconférence. Donc, c'est pas une erreur de style. Luc veut insister sur ce rassemblement ensemble dans un même lieu. Ils étaient ensemble dans un vivre ensemble. C'était le thème du synode dont Yvonne nous parlera un petit peu. Vivre ensemble en union d'église, le projet de Dieu pour le monde. Et c'est un refrain dans le livre des Actes des Apôtres, dans lequel nous sommes, avec Acte 2, la Pentecôte. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'il se passe toujours quelque chose quand on est ensemble. Et le récit est bien fait, il continue, le suspense est à son comble. Qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble ? Tout à coup, tout à coup, alors qu'on est ensemble, dans le vivre ensemble, tout à coup, il y eut comme un tremblement de terre, et aussi comme un grand coup de vent. Un grand coup de pneuma. Vent, souffle, esprit, en grec, qui a donné en français, pneumatique. Qu'on remplit d'air. Et puis, par l'esprit, ils parlent différentes langues étrangères et ils le font à tout le monde. Ils parlent à tout le monde. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en lisant le texte, il y a un passage subtil, enfin subtil, très visible, mais ils sont d'abord dans une maison, ils parlent différentes langues étrangères et puis toute la ville est au courant. Comment ça se fait ? Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Comment les gens de la ville ont entendu ? Peut-être du bouche à oreille. Mais il y a un passage de la maison à la ville. Et dans la ville, il y a les Juifs de la diaspora, dont Yvonne a parlé aussi. Toutes ces langues parlées, ils sont là pour la fête de Pentecôte, où ils résident à Jérusalem. Ils sont là. On passe de la maison, les disciples, dans l'entre-soi, au monde entier. Là, hop, subreptismo, dans le texte. La journée de Pentecôte, c'est une journée porte ouverte sur le monde. Le Saint-Esprit s'ouvre au monde entier. C'est l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants, sur l'Église qui est nouvellement formée. Un événement prévu, annoncé par les prophètes. Ézéchiel 37, vous vous souvenez, peut-être pas, je vous l'explique, la vallée des ossements, où ils reprennent vie, et il est dit, je ferai venir en vous un souffle, un rouach. Même chose qu'en grec, en hébreu, rouach, vent, souffle, esprit, je ferai venir en vous, un souffle, et vous reprendrez vie. Et par Joël, je répandrai, Joël, le prophète Joël, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Et l'accent dans ces prophéties, c'est le tout être humain. C'est le en vous, sur vous, en vous. Et Joël dit, même les enfants, même les vieillards, qui sont des personnes, à l'époque, l'on mettait un petit peu de côté en ce qui concerne la prophétie, la parole de Dieu, ben même eux. Alors ça ne veut pas dire que les enfants doivent prophétiser maintenant, comme on l'a fait au XVIIe siècle dans les Cévennes, mais ça veut dire que l'Esprit sera sur tout le monde. C'est l'effusion du Saint-Esprit sur tous les croyants. Alors il y avait déjà l'Esprit dans l'Ancien Testament, vous le verrez en lisant le Ruyou, mais de façon plus ponctuelle. Moi j'aime en particulier, c'est mon héros spirituel de l'Ancien Testament, enfin un des héros, c'est Bezalel, vous connaissez pas, le fils d'Ouri, qui est rempli du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Il est rempli du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour construire le tabernacle, pour tailler les pierres, enfin non, il n'y a pas de pierre, pour tailler le bois plutôt, les tentures, faire tout comme il faut, l'habileté manuelle, je lis Exode 35, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour remplir toutes sortes d'ouvrages. J'aime bien ça, le Saint-Esprit pour une mission spéciale et une mission manuelle, pourquoi pas? Mais là, Acte 2, c'est le début d'une nouvelle ère. Et dans la progression de la révélation biblique, il y a une progression de la révélation biblique, il y a un passage du Premier Testament au Nouveau Testament, il y a continuité. C'est le même Dieu, trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'est le Dieu d'amour et de grâce, mais il y a aussi une certaine rupture. Une discontinuité, et cette nouveauté, et il y a aussi nouveauté, et cette nouveauté, elle est en Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit promis. C'est l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église de Jésus-Christ, un événement inaugural. C'est nouveau, ça vient de sortir, la nouvelle vient de tomber. La Pentecôte est un événement fondateur, inaugural, et les mots sont importants. Et le mot « inaugural » est important. C'est-à-dire inaugural qui inaugure une nouvelle époque. Comme on inaugure une nouvelle plaque pour l'EHPAD protestant des Bougainvilliers, avec le maire qui déchire le papier Kraft qui est sur le panneau. C'est un événement inaugural. Tous les jours au Bouguin, on va pas remettre du papier Kraft ou un tissu pour faire l'inauguration. Ça se fait qu'une seule fois. Une fois pour toutes. On va pas mettre un tissu sur la plaque tous les jours juste pour le plaisir. Et donc, si c'est inaugural, ce n'est pas reproductible. On ne va pas essayer de reproduire tous les détails de la Pentecôte telle qu'elle, d'acte 2, comme Noël. C'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, on ne va pas reproduire la naissance. Il est né le divin enfant, une fois pour toutes. C'est comme Pâques, la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas reproductible. Jésus est mort une fois pour toutes, c'est bien dit dans l'Épître aux Hébreux. Il est ressuscité une seule fois, c'est un événement historique ponctuel. Ce n'est pas reproductible tel quel, comme je l'ai écrit. Alors vous allez vous demander où je veux en venir, mais je crois que c'est important de pouvoir insister là-dessus. Les événements de la Bible ne sont pas reproductibles tels quels à loisir. Surtout ceux qui sont inauguraux. Mais ils sont malgré tout des événements qui ont une influence sur ma vie. À Noël, Jésus est né, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et à moi de vivre cette incarnation dans ma vie de tous les jours, d'incarner l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans la vie de tous les jours. Incarner le message de l'Évangile, je suis appelé à vivre l'esprit de Noël tous les jours de ma vie, à l'actualiser pour moi, comme je l'ai écrit là. De même pour Pâques, la mort et la résurrection de Jésus, ces événements qui ont lieu une fois pour toutes, m'appellent à vivre la mort et la résurrection de Christ dans ma vie, à l'actualiser dans ma vie. La mort de Christ, par exemple. Quand Jésus nous demande à chacun de porter sa croix, ça ne veut pas dire de souffrir comme c'est pas permis. On n'est pas des doloristes. Ça a existé ce mouvement, dolorisme, la douleur, la douleur. Porter sa croix, c'est vivre un certain renoncement ou un décentrement de soi. Et ça s'actualise dans la vie, n'est-ce pas ? Je ne suis pas le centre du monde, ni de ma famille, ni de mon lieu de travail. Et puis la résurrection de Christ, comment vivre cette résurrection ? Comment l'actualiser dans ma vie ? Eh bien, on l'a dit à Pâques, en ayant une tête de ressuscité, en étant porteur d'espérance, une tête de ressuscité et non pas de déterré dans la vie, être porteur d'espérance dans la vie. Oui, tout cela, tous ces événements inauguraux ont des répercussions dans ma vie parce que je les actualise, on ne les reproduit pas, mais on les vit. Ou plutôt, on en vit, en trois mots. Alors, comment actualiser la Pentecôte ? Voilà une question, et quelle est bonne. Mais, bon, bref, mes enfants s'amusent avec moi parce que je dis toujours ça. Bon, voilà une question, quelle est bonne. Le Saint-Esprit est nous, et nous, et nous. Et je vous propose de faire une petite survol biblique de comment vivre la Pentecôte dans notre vie. Recevoir, d'abord, recevoir le Saint-Esprit. Et là, c'est important de distinguer certaines choses parce qu'il y a souvent confusion dans les termes. Recevoir le Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est se convertir. Le texte d'Éphésiens 1:13 nous le dit, je l'ai noté là, non, le voilà. Je commence un peu plus haut. Et en Christ, dit Paul, vous aussi vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ en qui que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qui avait été promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, scellé, en signe que vous lui appartenez, en signe d'appartenance. Vous avez été scellé du Saint-Esprit, authentifié, lorsque vous avez cru. L'Esprit est sur vous désormais, il est avec vous, en vous, à partir du moment où vous dites, où vous avez dit à Jésus d'entrer dans votre vie, l'Esprit fait sa demeure en vous. Pas de deuxième expérience. Certains disent, tu es converti, mais maintenant tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Non. Enfin, nous pensons qu'il s'agit d'une seule et même expérience, la conversion et le baptême du Saint-Esprit. Clin d'œil à nos amis et frères pentecôtistes. Le Saint-Esprit vient quand nous accueillons Jésus dans notre vie à la conversion. C'est là le baptême du Saint-Esprit. Et que il vient, que l'on le sache ou pas, qu'on le ressente ou pas, peut-être qu'il n'y aura pas un grand vent ou un grand bruit de tonnerre qui vient faire trembler la maison, Il n'y aura peut-être pas ça. Mais quand je dis ça, je me dis, il y a quand même quelque chose qui se passe et que l'on pourrait ressentir quand on reçoit l'Esprit lors de sa conversion, que ça soit par étapes ou d'une façon tellement ponctuelle. L'œuvre de l'Esprit en nous agit quand même de manière sensible. Des choses que l'on peut quand même sentir. C'est d'abord cette œuvre de conviction. Et je me répète pour ceux qui ont fait le parcours Alpha, mais on en parle souvent, cette œuvre de conviction, il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est dans l'évangile de Jean. Et je prends l'exemple d'une expression en Belgique, où j'ai passé 25 ans sans être belge, je voudrais le préciser, mais c'est pas grave, je pourrais l'être. Mais... Il y avait ces machines à bonbons, là, à l'époque, dans les années 80, et les bonbons, enfin, hyper chimiques, pas des bonbons, des chewing-gums, là. Et on mettait 5 francs belges, à mon avis, vous mettiez un franc français, là. Et on tournait, et quand la pièce tombait, on avait le chewing-gum. Horriblement chimique, mais on avait le chewing-gum. Et en Belgique, on dit, pour dire que quelqu'un a percuté, comme on dit en France, on dit « Ah, t'as le franc qui tombe !» Parce que quand on tournait la manette, le franc tombait. On pourrait dire l'expression « ça fait tilt ». Hein ? C'est aussi du français, ça. Ça fait tilt. L'œuvre de conviction du Saint-Esprit vous amène chacun à un moment, ça fait tilt. Et on le sent, on le sait, on se dit à un moment, oui, l'évangile, c'est pour moi. Oui, j'ai besoin d'être sauvé. Oui, ma vie ne mène nulle part, je vais vers un mur. Il y a le franc qui tombe, l'œuvre de conviction. Et il me semble qu'on le sent, n'est-ce pas? Et puis il y a cette œuvre aussi de l'appartenance. Romains 8 nous dit... L'Esprit, avec un grand E, dit ou témoigne, avec le verbe témoigner en fait, témoigne à notre esprit avec un petit E que nous sommes enfants de Dieu. Il y avait une personne dans la communauté chrétienne de Stokkel, à Bruxelles, que Michel et Georgette connaissent maintenant, que nous avons implanté avec une équipe... En 1985, nous avions 23 ans à l'époque. Et il y avait une personne qui venait à l'église, et souvent, régulièrement, et quand elle parlait de l'église et des gens de l'église, elle disait toujours « vous ». C'est intéressant ce que vous faites. Oh, je me sens bien chez vous. Et il n'y avait pas de problème avec ça. Mais on a vu un changement dans sa vie, et elle a commencé, devinez quoi, à dire « nous ». Je me sens bien parmi nous. C'est chouette ce qu'on fait, nous. Je me sens bien chez nous. Et ça, c'est le sentiment d'appartenance. L'adoption en Jésus-Christ, où on est tous ensemble pour dire « Abba Père ». Deuxièmement, après avoir reçu l'Esprit, être rempli de l'Esprit, à distinguer de la conversion baptême du Saint-Esprit. Là, on parle remplir du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Là, être rempli de l'Esprit, c'est plutôt des moments particuliers où on est rempli du Saint-Esprit ou pendant un temps pour une mission particulière. Et on pourrait s'attendre à ce que, quand on est rempli du Saint-Esprit, on arrive à une sorte d'extase, à un moment extatique. Mais dans la Bible, ce qui est frappant, à plusieurs reprises, c'est de voir que être rempli du Saint-Esprit, ça menait à quoi ? À annoncer la parole avec assurance. C'est tout. Mais c'est déjà énorme. Et on le voit dans Actes 4, 8, Pierre est devant le Sanhédrin qui n'est pas réellement... sympathique à son égard, où il risque gros. Et Pierre se lève, rempli du Saint-Esprit, et leur répond. Il est devant la cour supérieure de justice, là. Il risque gros. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur répondit. Et Il répond avec fermeté. Et puis, dans Actes 4:31, ils reviennent, Pierre et les autres reviennent de prison, et les disciples se rassemblent, et quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés, tous ensemble, encore une fois. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole avec assurance. Le courage. Remplir du Saint-Esprit pour parler et vivre l'Évangile, la parole de Dieu. Je me souviens, je parle un petit peu de ma famille ce matin, mais ce n'est pas une famille parfaite, mais c'est des exemples qui me viennent. On n'est pas une famille modèle, loin de là. Mais quand Julien était dans les premières années de médecine à Bordeaux, il était responsable de GBU et il avait le feu de Dieu. Il faisait une étude, il évangélisait tous les musulmans sur le campus, il avait une étude biblique avec deux non-chrétiens, et pour inviter au groupe GBU, il insistait, il passait des tas de coups de téléphone, et même les gens se plaignaient qu'il faisait trop pression. Et moi j'aimais dire que Julien là, il était radicalisé, mais c'était pas drôle. Mais peut-être était-il tout simplement rempli du Saint-Esprit, pour une mission particulière à un moment particulier. Bon, il s'est bien calmé depuis, mais il est encore investi et peut-être rempli du Saint-Esprit pour jouer au piano à l'église de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec le remplissage du Saint-Esprit? Eh bien, est-ce qu'on attend tout simplement que ça nous tombe dessus ou que quelqu'un nous remplisse nos verres comme on le fait parfois à table? Enfin, je me souviens, chez nous, c'était mon père qui servait l'eau, je sais pas pourquoi, donc papa, un petit peu d'eau, père, un petit peu d'eau, remplis-nous du Saint-Esprit. Mais il y a un verset dans Éphésiens qui dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Et là, dans la grammaire grecque, c'est une action continuelle, soyez remplis de l'Esprit, continuez à être remplis de l'Esprit, aspirez à l'être. On peut pas être tout le temps baptisé du Saint-Esprit, ça c'est une action ponctuelle à la conversion, c'est une fois pour toutes, mais chercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit pour être en bénédiction pour les autres, pour avoir une parole bienveillante pour les autres, pour être plein de courage, pour annoncer la parole incarnée en vous avec assurance. Restez ouvert à l'action du Saint-Esprit pour nous remplir. Et vous voyez sur le photo en bas à droite, c'est la pub pour Sprite. Non, c'est de la pub pour Spirit. Vous tous qui avez soif, venez à moi et je vous donnerai de l'eau en abondance, de la Spirit. Restez sensible à la direction du Saint-Esprit. Acte 16. Paul fait des voyages missionnaires, je pense son deuxième, et il sait pas trop où aller. Il veut aller en Bithynie, mais la phrase de Acte 16, 7, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous entendez? L'Esprit de Jésus. C'est pas une expression courante, mais 3 ou 4 fois dans le Nouveau Testament, c'est l'Esprit de Jésus pour parler du Saint-Esprit. Ne leur permit pas. Non, ben, on sait pas ce qu'il a dit, ce qui s'est passé exactement, mais ne leur permet pas. Par contre, Paul fait un rêve. Et il voit un Macédonien. Donc, il habite en Macédoine, c'est-à-dire en Europe. Alors que Paul est en Asie mineure, la Turquie actuelle. Et ce Macédonien le supplie de venir en Europe, et il le fait. Et Paul le fait avec son équipe, et là il implante avec Lydie, la marchande de pourpre, la première église européenne, l'église de Philippe en Macédoine. Alors il a eu un rêve. Alors on va pas discuter de l'interprétation des rêves. Hein. Freud a écrit un livre sur là, mais l'Esprit conduit Paul dans ses voyages missionnaires, et il le fait également avec nous, en imprimant des choses sur notre cœur. Et j'aime utiliser cette expression pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit fait des impressions sur notre cœur. Il fait forte impression. Et il fait bonne impression. le Saint-Esprit. Et par là, il nous conduit. J'ai parlé pour la première fois de cette image, je pense à Pau et mon beau-père, le papa d'Yvonne, éditeur et imprimeur de littérature biblique. Il m'a dit après, à la fin, c'est la première fois que j'entends cette image pour le Saint-Esprit de l'impression. Il ne me l'a pas dit, mais je crois que ça lui a fait plaisir. L'impression du Saint-Esprit. Alors j'ai une image de ce que ça peut faire l'impression dans la vie. Regardez, ça c'est les deux fils. Allez, derrière la fenêtre, Julien et Simon, les fenêtres ouvertes, le vent dans les voies, l'impression du Saint-Esprit. Je trouve que Simon, il a un petit air de Val Kilmer. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur. Bon bref, l'impression forte, dense du Saint-Esprit, qui imprime des choses, peut-être pas sur notre faciès, mais sur notre cœur. On a vu à l'époque une petite vidéo d'une réunion missionnaire en Amérique, c'était les Baptistes du Sud qui se réunissaient, et il y a une dame qui vient au micro et qui dit « And the Lord put Botswana on my heart. » Et le Seigneur a mis le Botswana sur mon cœur. Alors c'était un peu drôle, parce que le Botswana, tout le Botswana, enfin bref, on commence à imaginer des trucs. Mais oui, pourquoi pas? Le Seigneur met des choses, des pays, des missions sur le cœur des uns et des autres, et il nous conduit. Je vous ai déjà raconté cette histoire lors de notre week-end de rentrée à Roquefort. Yvonne Roquefort-Lépin, Yvonne, à un moment, l'année dernière, ressent le besoin incoercible d'inviter une amie de Pau, alors qu'elle est à Cannes, pour un concert à Paris. Avec Simon, un concert chrétien à Paris, avec Simon et Emma. C'était eux qui avaient invité Madame Van der Douce. Et moi, je lui dis, Yvonne, tu compliques les choses, là. Moi, je suis pour les choses simples, hein, pas trop de... tu compliques... Mais Yvonne, est têtue. Non. Il y avait une impression du Saint-Esprit en elle. Et elle a fait tout le bazar, inviter, se rejoindre à Roissy, enfin, je ne sais plus... Un truc pas possible. Et elle l'a fait. Et la dame lui a dit, écoute Yvonne, ton coup de téléphone est arrivé au bon moment. J'étais dans un passage difficile dans ma vie. Et Yvonne n'a rien d'exceptionnel, mais le Saint-Esprit est exceptionnel. Il imprime les choses dans le cœur. Mais si, elle est exceptionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'impression du Saint-Esprit. Et la dame a dit, c'est extrêmement bien tombé. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, recevoir l'Esprit, être rempli de l'Esprit, être sensible à la direction du Saint-Esprit ou à l'impression du Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Et je vais peut-être le passer, parce que le temps est arrivé. Mais deux versets, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et la chair, c'est pas le corps, là. Et la Semeur traduit bien de l'homme livré à lui-même. Marchez selon l'esprit et non pas comme si vous étiez simplement le maître de votre destin. Et puis, désormais, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Avec cette séquence qui est très importante dans la Bible. L'indicatif, je refais un peu de grammaire, et l'impératif ensuite. Vous êtes lumière en Jésus-Christ. Indicatif. Marchez donc comme des enfants de lumière, dans l'esprit de la lumière, dans l'esprit de la grâce, ça c'est pour les Galates, dans la lumière. L'indicatif d'abord, ce que je suis en Christ, l'impératif après, dans cet ordre, seulement, mais dans cet ordre, nécessairement. Et vous connaissez peut-être cette formule que j'affectionne, devenez ce que vous êtes déjà. Enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Alors, conclusion, je voudrais revenir à la fin du récit et de cette Pentecôte inaugurale et dire que, qu'est-ce qui se passe après que ces personnes entendent les apôtres parlaient dans leur propre langue. Eh bien, ils n'en revenaient pas. Ils étaient plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Une question ouverte, qu'est-ce que ça signifie ? Un étonnement après le spectaculaire, c'était spectaculaire quand même. Ils entendent tous dans leur propre langue. Mais peut-être aussi la vie, l'envie d'en savoir plus. Et Pierre, en tout cas, ne rate pas l'occasion, il se lève. Et c'est le grand discours de Pierre à la Pentecôte. Un discours qui sera centré sur Jésus. Alors Pierre se leva, entouré des onze, et d'une voix forte, il dit à la foule, et c'est tout son discours qui dure quelques minutes, quelques versets. Et il me semble qu'on peut voir qu'une chose là, c'est que le spectaculaire, le fait que les gens entendent le message, les merveilles de Dieu dans leur propre langue, ça étonne, ça surprend, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et Paul fait un discours fort, puissant, centré sur Jésus, crucifié et ressuscité. Le spectaculaire n'était une entrée, il faut ancrer l'événement dans la parole, c'est-à-dire sur Jésus, la bonne nouvelle de l'évangile en Jésus-Christ. C'est l'esprit et la parole, ou même l'esprit de la parole, l'esprit de Christ ou l'esprit de Jésus qui nous ramène à Christ. Et vous pourrez lire le discours de Pierre de la Pentecôte, le cœur du discours de Pierre, c'est le Christ, la parole incarnée. Et la toute fin du discours, que se passe-t-il ? Eh bien, ils eurent le cœur vivement touché. Je lisais une traduction, enfin en grec, qu'on pourrait traduire « piqué ». Ils eurent le cœur piqué au vif. Ça a fait tilt. Le front est tombé. Ils ont percuté. Et d'ailleurs, on a le cœur vraiment touché. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et là, Pierre leur dit « Eh bien, repentez-vous, ou convertissez-vous, ou changez radicalement de vie, c'est les mêmes termes pour la conversion, et soyez baptisés. » Nous le vivrons le 29 juin, trois personnes qui ont percuté pour l'évangile et qui se feront baptiser suite à leur conversion. Alors, je termine vraiment maintenant en vous disant bon vent, une expression un peu ambigu, n'est-ce pas ? Bon vent. Oh, et du vent, hein ? Mais bon vent, et j'ajoute de l'esprit. Bon vent de l'esprit, bon vent dans les voiles. Reçois l'esprit en donnant ta vie au Christ, si ce n'est pas déjà fait. Soyons remplis de l'esprit pour annoncer sa parole avec assurance et la vivre avec courage. Laissons-nous imprimer par l'esprit, marcher par l'esprit, tout un programme dans la liberté de l'esprit. L'esprit souffle où il veut, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Et s'il soufflait sur toi ce matin, sur nous ce matin, dans notre vivre ensemble. Amen.